Il est donc l'heure de retrouver Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, aujourd'hui, on va parler manga. Alors, c'est pas souvent une émission totalement centrée sur le manga, c'est pas de l'opportunisme, tout simplement parce que sort début juin une nouvelle série qui s'appelle Tsubaken. Elle est signée Zen. Et cette série affirme une nouvelle fois la création de mangas d'auteurs français. Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, Mathieu Reyes, celui de La théorie du chaos, avait déjà été présenté sur cette antenne. Le tome 1 de Tsubaken, manga en couleur, reprend des thématiques fréquentes dans le manga, comme ces années lycées où de petits caïds font la loi dans les établissements. Zen s'approprie le manga pour lui donner des accents européens. Nous serons avec lui vers 14h15 pour qu'il nous conte son immersion dans le manga. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour démarrer, d'abord une information, c'est Zen qui a choisi les trois titres de musique de cette émission. Il y aura tout d'abord Etherreal de Zerolex, mixé par Nikic. Louvre Part 4 de Nujabes et Cosmic Light de Fandi Ntouli. Donc ça, c'est pour la partie musique. Alors, immergeons-nous tout de suite dans le manga avec un rappel. D'abord, on va parler des trois grandes familles de manga. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les trois principales. D'abord, les shonen, qui sont les mangas pour les jeunes garçons. Il y a les shoujo, ça c'est pour les jeunes femmes, les jeunes filles. Et puis les seinen, alors là c'est les jeunes adultes. Il y en a d'autres, notamment par rapport aux érotiques, avec d'autres familles. Alors les mangas sont vraiment apparus en France, en 1981, avec une série qui s'appelait Le Cri qui tue et qui publiait quelques récits venus du Japon. Rapidement, il y a eu l'arrivée de Dragon Ball Z, d'Akira. Ça, c'était les éditions Glénat qui avaient lancé cette série. Et Dragon Ball Z, c'est vraiment la série absolument phare. Imaginez, 300 millions d'albums vendus dans le monde, une puissance financière énorme due à toutes les déclinaisons de la série en anime, en long métrage animé, en produits dérivés. C'est un empire qui pèse 23 milliards d'euros. Vous voyez ces petits morceaux de ces petits livres qui tiennent dans la poche, bah finalement ça peut rapporter gros. Alors Akira, ça y est, je me perds. Voilà. Donc Akira Toriyama, c'était cette première le taux qui m'échappait. Donc Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, donc est décédé très récemment, c'était en mars 2024, et donc son empire doit avoir une succession et beaucoup s'interrogent. Dans l'écriture, c'est vraiment une sorte d'héritier de Tezuka qui adopte, en tout cas dans tous les premiers récits, un découpage assez fluide, composé de cases où on a beaucoup moins les traits cinétiques omniprésents comme on pouvait l'avoir dans un certain nombre de séries. Il y a une actualité pour Dragon Ball et pour Akira Toriyama, c'est la publication d'une version full color, c'est-à-dire entièrement colorisée, dont les deux premiers tomes viennent de sortir, d'autres suivront. Et donc on découvre ce manga qui s'était imposé en noir et blanc, avec cette fois une mise en couleur. Alors lorsqu'on feuillette le manga, on se demande un peu à quoi peut servir la couleur, peut-être à séduire un peu plus de lecteurs. En tout cas, plus de 40 ans après la publication de la première histoire, après différentes compléments et de séries, et puis de versions plus ou moins inédites avec des couvertures soignées, là, cette édition full color va relancer aussi cette création d'Akira Toriyama. Il faut rappeler qu'il l'a fait. Cette bande dessinée, au départ, entre 1985 jusqu'à 1995, seulement 10 ans, et à partir de là, on a vraiment cet empire qui s'est constitué. Il a créé notamment le Bird Studio et a travaillé beaucoup pour le jeu vidéo. Mais cette création Dragon Ball Z reste vraiment le manga le plus connu dans le monde. Un autre manga est important, une autre nouveauté, c'est le tome 10 de Dreamland de Renaud Lemaire, qui est un auteur donc français qui vit dans la région. Et il y a une remasterisation des 10 premiers tome de Dreamland, et le tome 10 vient de paraître. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, remasteriser un manga? Eh bien, il y a eu de grands changements apportés, et notamment dans le dessin même de Renaud Lemaire. Et donc, il a souhaité reprendre ses 10 premiers tomes, la série en compte beaucoup plus, pour lui donner une nouvelle vie, une nouvelle fraîcheur, un peu comme Toriyama l'avait fait avec Dragon Ball. Alors, il a rajouté des pages en couleur, mais il y a aussi storyboardé, par exemple, le premier chapitre, il a repris un grand nombre de dessins, modifié la mise en scène pour avoir une unité beaucoup plus importante dans la série. Alors, ça peut vous rappeler, par exemple, ce qu'a fait Hergé avec Tintin, où il y a eu une refonte graphique complète qui avait été faite au moment du passage de 100 et quelques pages aux 62 pages des versions qui existent encore aujourd'hui. Donc là, il y a une volonté de l'auteur de réactualiser ces premiers tomes de bande dessinée qui déjà avaient eu un succès important et qui maintenant vont être peut-être plus adaptés au style actuel de l'auteur. Donc Dreamland, c'est le tome 10, Chemin, et c'est publié par les éditions Pika, et Pika qui fait partie des éditions Hachette, qui a été absorbée par les éditions Hachette. Il y a donc un point important, c'est une information où beaucoup d'éditeurs comme Tonkam, comme Pika, qui avaient lancé leur maison d'édition en publiant des mangas et avec des choix souvent pertinents, sont pratiquement tous maintenant à l'intérieur de grands groupes. Il subsiste encore quelques petites structures éditoriales ou d'autres éditeurs qui ont choisi de développer un manga d'auteur, et nous en parlerons juste après les Shadok. Alors, pour ces structure éditoriale comme les éditions Cornelius, il y a eu tout de suite la volonté de se démarquer de ce qui était publié, parce que c'est une difficulté. Vous imaginez, les mangas existent depuis pratiquement 80 ans dans leur forme actuelle. Il y a eu vraiment une économie extrêmement puissante qui s'est développée avec de très grands nombres d'éditeurs et des tirages absolument pléthoriques, qui fait que le manga est l'industrie de la bande dessinée la plus développée aujourd'hui dans le monde, avec des tirages absolument colossaux. Donc, les éditeurs qui importaient et qui se mettaient sur ce créneau ont eu tendance, très naturellement, à publier les grandes séries sans chercher vraiment à s'attacher à des créations plus fines, plus inédites et qui montraient la très grande palette et la très grande amplitude du manga, contrairement à l'ensemble des productions qui étaient traduites. Alors, il y a les éditions Cornelius, on pourrait citer les éditions IMO, les éditions Hubert qui développent elles aussi d'autres parties du manga qui se décalent, et puis il y a aussi les éditions Lézard. Alors je voudrais citer le Hakumakun de Shigeru Mizuki qui va paraître aux éditions Cornelius dans la collection Paul. Alors, les éditions Cornelius se caractérisent par un format un peu plus grand et qui sort de ce format de poche habituel des mangas. Donc là, on est dans un format roman graphique avec un prix certes un peu plus élevé, et en tout cas, ça donne une autre approche et plus d'ampleur aux pages de cette bande dessinée japonaise. Alors, Mizuki est un auteur que les éditions Cornelius s'attachent à publier avec beaucoup d'intensité. Le Hakumakun est un troisième personnage mythique de Mizuki. Il y a eu Kikao le repoussant ou le Kappa, et à chaque fois il y a une relation au surnaturel qui est très importante dans l'œuvre de Mizuki, et Hakumakun fait partie de cette piste narrative. Et dans ce récit, bien, on a Yamada qui va lutter selon une légende où tous les 10 000 ans, il y a un être surnaturel qui va être l'Hakumakun, donc là ça sera Yamada, et qui va devoir lutter contre un être surnaturel. Et il invoque le diable pour faire du diable une sorte d'obligé pour que pouvoir instaurer le paradis sur terre. C'est un peu alambiqué, comme beaucoup de mangas où on trouve avec des lignes de pitch, où vous dites, c'est quoi cette histoire? Et puis ils sont capables de que ça tienne la route et que ça vous attrape. Donc Hakumakun, je vous en parlerai plus précisément quand celui-ci sera paru, et c'est très prochainement. Et les éditions Cornelius ont aussi fait paraître les contes du caniveau de Tadao Tsuge, et c'est aussi un autre auteur avec un travail de fond, de traits, de dessin qui se décale par rapport au manga habituel. Cette fois, c'est les moustiques que l'on va écouter. Alors, après ces quelques informations plus qui relève plus de la généralité que vraiment d'une analyse un peu plus précise, je voudrais vous présenter le tome 4 du bateau Usine. Donc, c'est une série qui a été démarrée par par Shinjiro et mis au scénario par Shigemitsu Harada. Le sous-titre de ce bateau usine, c'est Shinyaku Kanikozen. Voilà. Là, je vais vous en sortir du japonais. Et c'est adapté, alors très librement adapté, de l'œuvre littéraire de Takiji Kobayashi. Alors, c'est une œuvre très intéressante parce que c'est un livre sur le prolétariat au Japon à travers la vie d'un bateau usine. Alors, les auteurs en ont fait une série assez abracadabrant, où cette fois le vaisseau, le navire, il est dans les nuages, il va combattre des crabes surnaturels, il y a une contre-maîtresse qui dirige ce navire, qui s'appelle Cujo, et qui est absolument détestable et tyrannique, et donc le tome 4 va... On va retrouver les héros qui ont été les ouvriers esclaves de Cujo, cette contre-maîtresse, et ils vont être sauvés par les soldats de Gazelle, qui est une société communiste basée sur l'égalité. Alors, si je m'attendais à lire une sorte de plaidoyer pour le communisme qui, en quelques pages, va donner une couleur particulière au manga, mais qui, quelques pages d'après, va être critiqué pour dire « Mais non, mais il faut qu'il y ait Dieu, c'est Dieu à la place du communisme, c'est bien mieux. » Donc, on part dans des considérations, on se demande un peu ce que ça fait là. Alors, c'est assez délirant sur le plan de la mise en image, c'est relativement classique. Le recours à l'onomatopée est assez appuyé. Tous les hommes sont beaux, forts, avec des beaux muscles et des tablettes de chocolat. Une tendance à l'homosexualité assez appuyée. Et c'est complètement délirant. Je dois dire, c'est assez décousu comme mise en scène. Et eh bien c'est ça aussi le manga, et dans cette pléthore de titres, eh bien on a tendance à tout prendre. Et ben, le Takeji Kobayashi, quand il doit voir cette adaptation littéraire, ben, cela a sans doute rapporté quelques bénéfices, mais le résultat est complètement improbable, et à la fin du tome 4... c'est toujours pas fini. Donc le bateau usine tome 4, donc Shinyaku Kanikozen de Shinjiro pour le dessin et de Shigemitsu Harada pour la partie donc scénario. C'est donc traduit par Satoko Fujimoto. C'est publié par les éditions Dupuis dans la collection Vega, et son prix est de 8,35 € pour plus de 200 pages, 228 il me semble. Musique. Handmade device for remote connection.
ask a question, wait for an answer and make a suggestion. Time and a place for a first impression, second and third to a fourth dimension. Rise above waste that hold us captive, curse square, swear that I are the captain. Cool the sapphire, scabbard like sapphire, moth to a fire, but we can fly higher. We reach an apex, we fit tight like a glove with the latex. Bring it down to earth for a cooling session. Lay sideways and glaze the nesses. Gaze to each other in the out of line galaxies of uncharted nebulous. Her joy of a spilled milk on a quilt of lavender, woven in the fabric of a calendar. Dress up at the end of October, give thanks to the famine November, a cold but cozy December. And we back to the origins, let me begin. Snowflakes in January, hot warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like April. Made the best dance in the Juno bridal. Power of the will, Julius and Augustus. All you know is just us in a new semester back in September. Boy, I wonder if still remember.
Depuis plus de 30 ans, l'influence du manga sur la création en bande dessinée est patente. D'abord parce que les auteurs français de manga étaient aussi lecteurs. Ensuite parce que les univers créés dans les récits ne se retrouvaient pas dans d'autres formes de bande dessinée. Depuis Marini et ses aventures d'Olivier Varèse en 1990, des auteurs comme Mathieu Reyes ou Renaud Lemaire ont affirmé l'enthousiasme à faire du manga à la française. Zen avec Tsubaken, série dont le tome 1 paraîtra début juin, s'inscrit dans la force de cette création. Le récit. Nous sommes à Outfit City. Les œuvres de la culture de l'époque, numérique souvent, sont des appelées low cost et s'échangent, se monnaient désormais sous le manteau. Dans un lycée, le lycée Gloves, nous découvrons Kenwick, jeune afro, tout de suite pris à partie par Barlog, le caïd du lycée. Kenwick doit se retenir car il a été renvoyé des autres lycées pour violence. Il ne veut pourtant pas rester sans répondre, mais où va l'emmener l'affrontement avec Barlog, les gangs, la police, la vie. Zen adopte une esthétique héritée du manga. Son trait est ironique. Déjà avec la tignasse de Kenwick, mais aussi avec une qualité et de la gestuelle avec qui ont une grande précision, et puis ses attitudes parfois exagérées, des petites frappes du récit, et le trait devient même joyeusement vachard. Ces expressions peuvent relever de la caricature, souvent à l'œuvre dans les manhwas, ces bandes dessinées coréennes. Ce tome installe efficacement Kenwick, le héros de la série, le contexte du récit et sa société gangrénée par les gangs voués au culte du low-tech. Nous sommes avec Zen pour qu'il nous entraîne dans les coulisses de cette création d'un manga à la française. Bonjour Zen.
Bonjour.
Alors, comment s'est passé ce cheminement pour arriver jusqu'à l'envie de créer un manga version Frenchie?
Bah, tout a commencé, j'étais très jeune. En réalité, de la primaire, j'avais cette envie de devenir auteur de bande dessinée. Pas forcément du manga au début, mais... C'est venu par la suite. Après le lycée, c'est vrai que c'est vraiment le genre de bande dessinée qui me parlait le plus.
Vous étiez donc lecteur de par exemple, Dragon Ball Z?
Tout à fait, oui. Ouais, c'est mon manga favori, je dirais.
Alors, qu'est-ce que ça... Comment s'est créée cette passion? Qu'est-ce qui fait que Dragon Ball a eu autant d'importance? Sur vous, alors, notamment.
Oui. Bah, en tout cas, pour moi, donc je m'en souviens très bien, c'était à la cour de récré, en fait. Au début, je trouvais ça... j'aimais pas beaucoup ça, en fait, en réalité, parce que je voyais que de loin, enfin... Je ne pensais même pas que c'était des livres, je voyais ça à la télé, dans les dessins animés et tout, que je pouvais pas regarder à l'époque. Et un jour, il y a un de mes camarades qui a ouvert un livre, un peu pour me convaincre, entre guillemets. Et là, j'ai vu que les dessins, en fait, ça pouvait presque se lire sans lire les bulles, quoi. C'était assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, par la suite, j'en ai demandé à mes parents. Et j'ai tout lu, quoi.
Alors, comment on passe de cette... de cet environnement, de cette immersion dans le manga et Dragon Ball Z, c'est une histoire qui était soutenue, avec une présence, vous l'avez dit, télévisée, à sa propre création.
Alors j'avais beaucoup d'univers, enfin je dessinais beaucoup de choses, certaines sans importance, d'autres avec un peu plus, dans Tsubaken justement. C'était des personnages que j'aimais bien faire évoluer dans des histoires dans les marges des cahiers d'école. Puis ensuite, quand j'ai su que c'est ce que je voulais faire plus tard, bah, j'ai fait évoluer certains de ces univers-là, dont Tsubaken fait partie.
Alors, dans ce premier tome, il y a un cahier complémentaire où vous donner quelques pistes sur la création de cette série, et notamment une première version noir et blanc pour un webtoon. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le contexte de cette commande et comment s'est passé le passage de cette version noir et blanc à une version couleur?
Bien sûr. Bah alors en fait, comment ça s'est passé? Alors je suis sorti d'une école de bande dessinée donc 2 ans après le lycée, et j'avais directement essayé de faire du Tsubaken un projet édité pas en manga, en couleur. C'est assez ironique parce que le format que je voulais à la base se rapproche de ce tome-là qui est sorti finalement, qui sort en juin finalement. Mais cette première version a été refusée. Donc au fil des années, j'ai retravaillé le projet et j'ai tenté de représenter ça sous forme de manga qui a un peu le vent en poupe, hein, comme vous en parliez. Il y a beaucoup d'auteurs français qui font des trucs incroyables et ça m'avait donné envie de faire partie de ces nouveaux talents. Encore une fois, ça n'a pas marché. Et j'ai été contacté par cet éditeur qui, lui, cherchait du webtoon et qui trouvait mes couleurs sur les dessins que je réalisais sur les réseaux sociaux un peu plus impactantes que ces pages noires et blancs. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé au webtoon qui, finalement, a eu cette adaptation en tome relié en cette année 2024.
Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, Zen, ce qu'est un webtoon?
Alors, webtoon, c'est assez récent, c'est relativement récent. C'est une bande dessinée qu'on lit en ligne en scrollant vers le bas, donc en faisant défiler la page vers le bas. C'est comme une longue bande qui ne s'arrête. Il n'y a pas vraiment de page, finalement. C'est une bande qui ne s'arrête pas et... ça offre des possibilités assez intéressantes en tant qu'auteur, notamment sur les suspenses et le découpage qu'on peut presque séquencer comme un dessin animé finalement. On ne retrouve plus du coup dans le livre papier, mais c'est quand même intéressant de travailler sur ce format. Je ne connaissais pas du tout avant et voilà.
Zen, comment se met en place une série au niveau scénario, jusqu'où avez-vous avancé? Est-ce qu'il y a au-delà ou bien au-delà de ce tome 1? Et comment, quel parti pris avez-vous choisi pour écrire ce récit? Qu'est-ce que vous gardiez de l'ambiance manga et qu'est-ce que vous vouliez apporter? Comment vous vouliez personnaliser ce récit?
Alors, comment répondre à ça? Oui, il y a une suite, j'ai une suite en tête écrite sur sur divers fichiers sur mon ordinateur. Déjà, il y aura un tome 2, ça c'est sûr, qui conclurait le premier arc de la série. Mais potentiellement, ça pourrait aller jusqu'au tome 5 ou 6, si j'en avais la possibilité, oui.
Alors,
et la suite de votre question, c'était, pardon ?
En fait, qu'est-ce que vous aimez dans le manga que vous souhaitiez voir présent dans votre récit, et à l'opposé, qu'est-ce qui vous déplaît dans le manga et que vous n'utilisez pas dans votre histoire ?
D'accord. Je dirais que ce qui me plaît dans le manga, c'est la vie que les personnages ont. J'ai l'impression qu'ils sont plus vivants. Enfin, évidemment, le manga, finalement, c'est un autre mot pour dire bande dessinée. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment trouver de tout dans un manga. Mais j'ai quand même l'impression que les personnages sont beaucoup plus vivants. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment retranscrire dans ce que je faisais. Donner cette impression de vie, que les personnages vivent des choses avec des expressions assez exacerbées.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le manga?
Je sais pas. Je pense que c'est ce que j'aime pas, c'est la même chose que j'aimerais pas dans de la BD ou du comics. C'est une question difficile. Je saurais pas quoi répondre.
Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe le deuxième morceau de musique, et puis peut-être qu'après, vous aurez peut-être plus de précision. J'aurais d'autres questions, et notamment sur la partie dessin et mise en scène. À tout de suite, Zen. Ouais. Thank you. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Zen, auteur de manga à la française, et sa série, le tome 1 de sa série, Tsubaken, va paraître au début du mois de juin. Alors, Zen, il y a dans votre bande dessinée un choix, par exemple, sur la représentation des yeux, qui sont des grands yeux qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, la façon de représenter les cheveux, qui sont des masques capillaires. Alors, Kenwick, elle est particulièrement imposante. Et puis, on a l'impression que vous ne voulez pas utiliser ces lignes synthétiques qu'on voit souvent à l'œuvre dans des mangas pour souligner des scènes d'action et autres. Comment se sont faits vos choix graphiques, Zen ?
Alors, Tsubaken, c'est ma première BD que je fais vraiment à 100%. Donc, en fait, j'ai vraiment cherché pendant ce tome encore des moyens d'atteindre des rendus que je trouvais appréciables. Donc il y a parfois où j'utilise des lignes, d'autres fois non. C'est vraiment en fonction des scènes, je peux même pour certaines scènes qui demandent certains rendus, je peux carrément changer de style beaucoup plus détaillé ou au contraire très 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 synthétique.
Et la mise en couleur? Parce oui. Elle est très forte. Quand on voit la plupart des mangas qui sont en noir et blanc, ben, on se dit que votre couleur apporte beaucoup à ces ambiances de lycée, de rue, à ces présences des différents personnages.
C'est vrai que j'ai laissé de l'espace à la couleur, comme ma réalisation initiale était pour du webtoon totalement colorisé. Au moment du noir et blanc, j'ai quand même laissé en sorte de laisser un peu d'espace pour que ça fasse pas trop chargé avec les traits noirs et quand même avoir de l'espace pour faire des nuances avec des tons avec beaucoup de dégradés finalement. Voilà.
Alors, il y a vos partis pris graphiques, il y a cette façon aussi de caricaturer des expressions, par exemple sur des scènes de combat, où les personnages vont un peu à la manière des bandes dessinées coréennes, où se juxtapose très facilement le réalisme d'une situation et la caricature. C'est aussi un choix appuyé.
Oui, tout à fait. Bah, l'une de mes influences pour Tsubaken à l'époque du lycée, quand je commençais à creuser un peu le sujet, c'était un manga qui s'appelle Sunken Rock, dessiné par un auteur coréen qui s'appelle Boshi, et qui joue comme ça avec des cases de hyper réalistes vraiment impressionnante et qui sur la case d'après peuvent aller sur des petits bonhommes des points noirs à la place des yeux et faire des espèces de contrastes de situations comme ça assez intéressant. Et oui carrément c'est vraiment quelque chose que je recherche. Oui.
Comment vous travaillez, Zen ? Est-ce que vous avez une trame écrite sur l'ensemble de ce tome 1 ou est-ce que vous avancez au fur et à mesure en développant à la fois le scénario, le dessin, la mise en scène ?
Alors pour ce tome 1, c'est un peu particulier parce que j'avais déjà commencé à creuser le projet en amont il y a des années. Et j'avais un storyboard papier que j'ai retranscrit numériquement en webtoon, à peu de choses près. Enfin, il a quand même fallu revoir pas mal de choses pour, parce que c'est vieux quand même. Mais ça, je l'avais écrit, effectivement. Et pour la suite, j'ai que des textes qu'il faudra refaire directement au Webtoon cette fois-ci. Donc là, je travaille sur le tome 2, justement, en ce moment. Complètement numériquement, du coup.
Il y a un point où vous apportez beaucoup d'attention à la gestuelle des personnages, notamment aux mains. Quand un personnage tient quelque chose, il le tient vraiment. Ça aussi, c'est un parti pris parce que ce n'est pas systématique du tout dans les mangas.
Bah, j'essaye, en tout cas, j'essaye de rendre les actions le plus lisibles possible. Surtout que dans Tsubaken, il y a des moments où on a besoin de comprendre ce que les personnages ont dans les mains, qu'est-ce qui se passe avec certains objets. Surtout les gants qui dealent des vieux objets. Donc oui, il y a peut-être ce besoin que ce soit assez lisible à ce niveau-là. Après, j'essaie de faire de mon mieux. Ouais.
Alors il y a un autre point, puisque je l'évoque très régulièrement au fil des émissions, c'est le lettrage. Et là aussi, il y a beaucoup de soins apportés, aussi bien au lettrage des dialogues, mais aussi à toute la partie texte dans l'image, avec les onomatopées, avec des points d'interrogation, des expressions plus appuyées. Comment se travaille ce lettrage, Zen?
Alors pour les dialogues, j'essaie de m'imaginer comment la scène peut fonctionner. En fait, les dialogues, je trouve que ça, en fonction du rythme qu'on donne, de quelle phrase sort à quel moment, qui répond quand, ça peut vraiment changer une scène et la rendre bien, même si au premier abord, elle semblait pas si bien. Donc, je peux passer des heures à tourner en rond pour essayer de trouver des bonnes tournures, mais je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire aussi, ouais.
Quel dessinateur êtes-vous, Zen? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Alors, est-ce que vous êtes à l'énergie? Est-ce que vous reprenez? Vous êtes au contraire très attentionné, très, très méticuleux?
Je suis... Alors là, j'essaye de l'être en tout cas méticuleux, mais je pense que je pars beaucoup dans beaucoup de directions et je recommence beaucoup. Ça prend pas mal de temps, oui. Finalement, j'ai encore beaucoup appris sur ce premier tome et ouais, je recommence beaucoup mes cases.
Parce qu'il y a beaucoup une gestuelle assez dynamique. Les quelques scènes où il y a un peu de bagarre, les personnages sont vraiment, vraiment très appuyés dans leur gestuelle. Comment ça se dessine, ça? Est-ce que vous êtes debout sur votre table à dessin et puis vous êtes dans l'énergie du mouvement?
Ça m'arrive souvent de... Alors, moi tout entier, non. Mais ça m'arrive souvent que mon visage prenne l'expression du personnage que je dessine. Mais j'aime bien chorégraphier des scènes d'action comme ça. Je trouve ça vraiment amusant. Ouais.
Zen, ce Thomas sort début juin. Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Comment ça se passe?
Il y a plus de joie qu'autre chose. J'ai passé beaucoup de temps dessus, donc finalement, c'est un peu un aboutissement que je ne peux que m'en réjouir. Bien sûr, oui, il y a quand même du stress. Quel va être l'accueil? Si ça se trouve, les gens vont trouver ça ridicule ou je ne sais quoi. Mais je suis quand même plus joyeux qu'autre chose.
Merci beaucoup, Zen. Je vais rappeler les références de votre livre, donc Tsubaken, tome 1. C'est publié par les éditions Dupuis dans la collection K-Factory. C'est entièrement en couleur. C'est un shonen pour 9 ans et plus. C'est ce qui est mentionné sur le site de l'éditeur et c'est tout à fait juste. Les 224 pages de ce livre sont au prix de 16 euros et il a été imprimé en France. Merci beaucoup, Zen. À très bientôt.
Merci à vous pour l'invitation. À
Merci.
Bientôt.
Au revoir. Pour terminer cette émission, je voudrais vous présenter un autre manga à la française. Alors, c'est issu d'un univers. Donc, il y a Dofus, il y a eu Wakfu. Et donc là, on a Wakfu, La Grande Vague, dont le tome 1 vient de sortir. Alors, c'est une sorte d'univers et on va retrouver. Donc, dans ce Wakfu, La Grande Vague, on va retrouver Hugo, Amalia, Tristepin, Évangeline ou Ruelle, qui font aussi partie de la confrérie du Tofu. Alors, comme pour les Japonais, on a à la fois les séries en bande dessinée, mais aussi les séries animées ou des webtoons. Donc, Tot est un auteur qui a développé cet univers. Et pour ce tome 1, donc partie manga à la française, donc de cette déclinaison, c'est Cynthia Lehmann qui est à l'œuvre et qui a déjà illustré et fait de très nombreuses séries, donc qui va reprendre l'esthétique déjà en œuvre dans les animes pour qu'il y ait une continuité qui puisse se faire entre les différents les différents univers, les différentes déclinaisons de ce monde. Alors, il y a quelques pages couleurs avant de passer au récit qui va se déployer en noir et blanc. Alors, c'est une sorte de parti pris qui peut être tout à fait bon de remettre en question. Pourquoi ne pas, à la manière de ce qu'a fait Zen pour Tsubaken, pourquoi ne pas faire des mangas entièrement en couleur et être à ce point tributaire de cette façon de systématiquement publier les mangas en noir et blanc. C'est vrai que dans toutes les traductions, eh bien, c'est plus facile. Et d'ailleurs, le sens de lecture à la française, à la japonaise, donc de droite à gauche, le souligne. On ne fait pas d'adaptation et donc on publie dans le sens de lecture original. Mais pour les mangas à la française, ça peut être pleinement légitime de permettre aux auteurs d'utiliser aussi leur qualité de coloriste, ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, celui qui aura été choisi. Alors, dans ce Wakfu, la grande vague, on va retrouver ce royaume qui est bien sûr complètement imaginaire. Il y a un couple on les découvre dans leur nid douillet, et puis ils vont devoir affronter une opposition pour le pouvoir, et donc Amalia est la reine de ce territoire, et c'est important aussi que les héroïnes puissent être les personnages les plus importants, même si Hugo est un personnage qui a énormément de pouvoir. Mais en l'occurrence, sur cette histoire, c'est son épouse qui est la reine qui va administrer donc ce territoire et va s'opposer à une belle-sœur qui cherche à récupérer qu'elle considère être de droit. Alors ces rivalités, on en a très facilement, mais dans le traitement, il y a là aussi un jeu sur le lettrage qui est plus poussé, plus appuyé, plus nuancé que ce que l'on trouve habituellement dans le manga. Là, on a des scènes de cauchemar avec un lettrage tout à fait particulier, la façon de gérer les onomatopées qui est avec ce lettrage spécifique. Et puis, il y a un autre point très très important dans cette façon de faire le manga à la française, c'est l'occupation du texte dans les bulles. Quand vous regardez, vous feuilletez beaucoup de mangas, on a avec la traduction un texte français qui occupe beaucoup moins d'espace et on se retrouve avec ce blanc tournant qui est très important et qui fait qu'on a parfois des bulles qui occupent tout l'espace pour un texte qui est relativement restreint. Là, le principe et le fait que ça soit le français qui soit la langue d'origine permet d'avoir une qualité de bulle beaucoup plus adaptée. Wakfu, c'est une série donc sur le pouvoir avec des êtres complètement imaginaires. Ça fait partie donc de ces trois domaines. Wakfu, Dofus, et puis donc Wakfu, la grande vague. Et puis il y a relativement peu de cases par page et une dynamique assez importante dans les images. Il y a bien sûr cette esthétique qui est reprise, qui plaît aux auteurs, comme nous l'a dit Zen, et Cynthia Le Mans a aussi cette filiation avec le manga et l'esthétique manga assez courante, ses très grands yeux, cette façon de représenter les personnages, ses mentons assez étroits et ses visages assez fins qui ont des formes très proches les unes des autres. Ça se lit très agréablement. Les amateurs du genre vont apprécier de pouvoir poursuivre la lecture de cet univers qui a été initié donc avec Dofus. C'est une série qui a vraiment très bien marché, d'où ses déclinaisons en animation. La Grande Vague, eh bien, c'est donc une nouvelle piste où cette fois la conquête, la volonté de pouvoir défendre son territoire met en avant le rôle des femmes dans cette société imaginaire et pourquoi pas aussi ici. Wakfu, La Grande Vague de Cynthia Le Mans pour la partie dessin et Todd pour la partie scénario et création de cet univers et déclinaison de cet univers. C'est publié par les éditions Ankama. C'est aussi un manga qui va paraître au tout début du mois de juin. Je crois que c'est le 7. 208 pages pour ce premier tome. Il y a une version courante à 8 € et une autre collector à 9 €. Merci Fabien pour cette technique et on se retrouve la semaine prochaine. Je continuerai à parler de manga plus régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade et bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.